Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est poussé par des raisons politiques que vous êtes cette fois obligé de quitter votre ville.
Oui. Parce que les événements ont commencé à se précipiter. Les premières lois raciales ont été introduites en Roumanie, je pense, à la fin de 1937. Et on devait faire la preuve qu'on était citoyen juif, citoyen roumain. Et environ, je pense, la moitié ou 200 000 juifs ont été déclarés comme étant étrangers. Mais nous étions roumains, entre guillemets. Et comme je disais tout à l'heure, il se produit une sorte de mouvement. C'est-à-dire les gens qui vivaient dans les petites villes allaient vers les grandes, parce qu'il y a eu quand même des petits pogroms, des agressions, etc. Et mon père était déjà à Bucarest. Enfin, il vivait entre Bucarest et Bessarabie. Et donc, à ce moment-là, ma tante décide que nous allons déménager à Bucarest parce qu'on serait plus à l'abri des événements, si on peut dire. J'ai peu parlé du fait que le mouvement de garde de fer était un mouvement très, très important qui faisait énormément de manifestations en Roumanie. Qui accentuait à la fois la pression sur le roi et la pression sur nous, qu'il y avait des assassinats, qu'il y avait quand même une violence un peu partout.
Le clergé est tout puissant.
Le clergé était tout puissant, bien sûr, en Roumanie. Et puis vous avez tout ce monde intellectuel, les universitaires, parmi lesquels il faut quand même rappeler le nom de Cioran et Eliade, qui était à la fois pro-nazi, parce que le mouvement des gardes de fer, qui a commencé par être un mouvement fasciste du type Mussolini, vers les années 36, devient véritablement un mouvement nazi. Et donc, il y a une sorte de peur qui se répand dans la population, et chacun essaie de... maintenant de définir son destin, si on peut dire, qui commençait à se profiler.
Hein. Alors c'est à cette période que vous assistez à un défilé antisémite, vous nous en avez à peine parlé. Est-ce que vous avez peur quand vous voyez ces gens défiler?
Ah oui, là oui, parce que, je ne sais pas, le personnage du juif devient à ce moment-là quelque chose de polymorphe. On accusait les juifs d'être communistes, d'être capitalistes. Si vous voulez, tous les protocoles du sage du Sion commencent à circuler. Ça devient un discours quotidien. Puis on commence à penser à nous expédier parce qu'en 1937, quand on a énoncé ces lois raciales, enfin, c'était des gouvernements assez transitoires, mais enfin assez importants. On a aussi pensé à nous envoyer au Madagascar. On rigolait, mais enfin, c'était quand même une menace.
Mais quand on lit votre livre, on se rend compte que, bien sûr, vous avez peur, mais en même temps, vous êtes un peu excité. C'est-à-dire que...
Mais ce sont les deux choses. C'est-à-dire parce que j'ai écrit un livre là-dessus. Parce que la foule est en même temps quelque chose d'excité, quelque chose de très attirant, quelque chose d'hypnotique. Hein ? On est attiré par ça, par la présence de ces foules. Et en même temps, on a très peur.
Qu'est-ce que, selon vous, le peuple roumain a trouvé dans le fascisme? Est-ce qu'il réglait un compte avec son histoire?
Ah, sur ça, j'ai écrit... Mais le peuple roumain a trouvé dans le fascisme... Le peuple roumain avait un problème, comme beaucoup de peuples, qui venaient de se former, qui étaient indépendants depuis très peu, c'est de définir ce qu'on appelle aujourd'hui leur identité, c'est-à-dire de se retrouver, de situer leur place dans l'histoire, de trouver une unité. Et donc le fascisme était tout ça. Le fascisme était à la fois la revanche de la tradition contre le monde de la modernité. Hein. Et dans cette configuration, les Juifs représentaient la modernité, c'est-à-dire l'argent, la culture, le communisme, tout ça. Hein, c'est-à-dire tout ce qui allait transformer la société et le monde.
Et sans le savoir encore, parce que le juif est encore autre chose, vous venez de mettre le doigt sur ce que l'on appelle le syndrome de Fregoli.
Oui, parce que dès le début, je me suis rendu compte, enfin, du moins, je pense toujours que le problème, que l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème des autres. Hein. Et j'appelle le syndrome de Fregoli le fait qu'on pouvait prendre ces Juifs et en faire tout. Vous savez, les Juifs étaient le sosie du communisme, des communistes, les Juifs étaient le capitaliste, les Juifs étaient l'exploiteur du paysan. On avait toutes ces propriétés contradictoires, finalement. Et on les énonçait dans une même phrase. Vous voyez, nous étions le judéo-bolchevisme, le judéo-capitalisme. Et dans ce sens-là, j'ai dit que c'est le symptôme de Fregoli parce que c'est un des symptômes psychiatriques où quelqu'un voit toujours des sosies. Hein. Et je pense que lorsqu'on voyait un juif, on ne voyait pas un juif, on voyait le sosie de quelque chose qui était le capitaliste, le bolchevique, etc. Puis il y avait quand même quelque chose de pathologique. Mais à ce moment-là, je n'aurais pas dit que c'était pathologique parce que je ne connaissais pas ces mots ni ces idées. Mais c'était fou. Hein. C'était...
Oui, parce que c'est complètement irrationnel, c'était, de toute façon, c'était... en voyant la situation des juifs oui. à l'époque.
Et tu vois, tous ces pauvres juifs, d'abord, ils étaient pauvres. Hein. Et puis, on tremblait de peur. Hein. Et puis, nous apparaissions en même temps comme la clé de voûte de tout l'univers. C'était quand même extraordinaire.
Thank you.
l'automne 37, vous vous rendez en Bessarabie, mais l'atmosphère n'est plus la même. Là aussi, il y a quelque chose qui a changé.
Et oui, parce qu'en Bessarabie aussi, disons, l'antisémitisme commence à pénétrer, et surtout à se manifester. Et puis, bon, dans les communautés juives, on commence à sentir une sorte de démoralisation. Si vous voulez, les gens n'avaient plus envie, de s'occuper de leurs affaires, parce qu'il n'y avait plus d'horizon. C'était curieux, cette situation. À la fois, nous, on tremblait de peur et d'impuissance, et eux, ils nous considéraient comme tout-puissants. Et puis la Bessarabie avait aussi un passé de pogrom, le pogrom de Kishinev, le pogrom d'Odessa et tout ça. Et donc, et puis il y a le caractère un peu triste, un peu sentimental, il y a un caractère un peu dépressif, si vous voulez, qui est celui des Russes et des Juifs russes, qui commence à sérieusement, je veux dire, miner la vie sociale des gens, cette innocence, entre guillemets, dans laquelle ils vivaient avant.
En décembre de cette année 37, le roi Carole installe le premier gouvernement roumain antisémite déclaré. C'est une décision qui peut surprendre venant de ce roi.
Oui, elle peut surprendre, mais parce qu'il était dans cette guerre civile avec la garde fer, et donc il essayait de couper la branche sur leurs pieds en instaurant lui-même un certain nombre de lois.
Là encore, Frégoli, parce que la branche, c'est les Juifs.
Oui, et donc, et en même temps, il y avait déjà les pressions allemandes, si vous voulez, sur la Roumanie. Et c'est toute la période pré-Munich, enfin, vous voyez.
Parce que dans un premier temps, mais contredisez-moi si je me trompe, le roi Carole n'est pas hostile aux Juifs, au contraire.
Non, pas du tout. C'était bien connu qu'il il protégeait la communauté juive. Et puis, malheureusement, le roi Carole avait une maîtresse qui était une maîtresse juive, qui s'appelait la fameuse Magda Lupescu. Et donc, tout le monde pensait que les Juifs étaient protégés par le roi. Mais non, le roi poursuivait ses propres destinées politiques, et il n'était pas, si vous voulez, dans ses destinées politiques et dans cette alliance avec les Anglais et les Français. Le roi ne pouvait pas mener une politique antisémite jusqu'en 1937, où cette guerre civile dont je parle avec la garde de fer a pris des formes extrêmement violente, et la guerre d'Espagne y a contribué.
Alors, qui constitue ce premier gouvernement roumain antisémite? Qui sont les gens à sa tête?
Mais justement, les gens à sa tête, c'est un des plus grands poètes roumains et l'ancêtre des partis antisémites. Le premier parti politique antisémite en Europe a été créé en Roumanie. Et ce sont ces deux personnages, mais là, vous pouvez dire que par rapport à la garde de fer, c'était un antisémite modéré. Et donc, il prend un antisémite modéré et ce poète, et il forme ce premier gouvernement qui édicte les premières lois racistes, je pense peut-être en Europe même.
Alors justement, à partir de là, tout va très vite. On est en janvier 1938. Les entreprises qui appartenaient aux Juifs sont saisies. Les Juifs se retrouvent...
Les lois, il y avait une loi sur la citoyenneté, voir qui était juif depuis trois générations.
Votre père, d'ailleurs, va partir dans une quête terrible de la généalogie.
C'est une période à la fois triste et comique de cette époque. Et puis, donc, on essaie d'éliminer les Juifs de tous les métiers, si vous voulez, qui avaient un rapport avec la profession, qui avaient un rapport avec l'État. Mais je ne me souviens pas, je ne pense pas que la loi ait été vraiment appliquée parce que... Et puis, il y a cette fameuse... idée de nous expédier à Madagascar, qui était une des solutions sionistes.
Mais de très nombreux Juifs perdent à ce moment-là leur nationalité.
Oui, à ce moment-là, il y en a peut-être 200 000 ou 300 000 qui perdent leur nationalité. Enfin, c'était à la fois quelque chose de triste, mais de toute façon, nous étions des citoyens de seconde zone, qu'on soit citoyen roumain ou non. Hein. Et donc, ça ne changeait pas vraiment grand chose le fait qu'on soit ou non citoyen roumain. Et je crois que les lois elles-mêmes ne sont appliquées que très partiellement parce qu'il y a tous les arrangements, les Roumains, les Juifs qui passent des parties des affaires aux Roumains. Enfin, vous voyez, on crée toute une série d'entreprises faussement roumaines.
Et est-ce que l'enfant que vous êtes à l'époque se rend compte véritablement de la gravité de la situation ? Quand on vit les choses comme ça au jour le jour, est-ce qu'on se rend compte que c'est très grave ce qui se passe ?
Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus un enfant. C'est-à-dire, on n'est plus un enfant quand on vit dans des circonstances pareilles. Au contraire, je pense qu'il y a chez les enfants une sensibilité extrême, je dirais une sorte de radar à ce genre d'événements, parce que les enfants n'ont pas les rationalisations, ni les défenses des adultes, ni les passivités des adultes. Et puis c'est aussi l'époque où on a une sorte d'idéalisme, hein. Et je crois que les enfants ont été les plus sensibles à ces événements.
Eh bien, Serge Moscovici, dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur ces lois antisémites et ces lois qui vous obligeront à fuir encore. Et ensemble, si vous le voulez, nous découvrirons Bucarest.
Oui.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.